Bonjour, bonjour. Ce matin, j'ai envie le sujet que j'ai sur le cœur pour vous ce matin, c'est, prochain slide, Christian, les interruptions de la vie. Ces choses, comment les considérer? Qu'est-ce qu'il faut en faire de tous ces bugs, tous ces imprévus, toutes ces choses qui viennent un peu parasiter nos journées, hein? Comment réagir? Je dirais que les interruptions, la définition que je vais donner, c'est une sorte d'interférence, en fait, hein, qui dérègle la trajectoire que je me suis fixée pour la journée. Hein, voilà. Je me lève le matin, j'ai mon agenda, c'est tout prêt, voilà, ma journée. Pas toi? Ah, d'accord. C'est vrai, tu vois, on en parlera après, ça m'intéresse. C'est la retraite. Ouais, peut-être. Voilà. Et alors, bon, ça peut être tout, n'est-ce pas? On commence tout petit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, c'est de prendre un chariot à la Migros? Et en fait, tu sens que ça bug un petit peu, tu dis, non, ça va aller. Et pendant tout le circuit, t'as ce chariot qui veut faire la malle, en fait, qui a sa propre volonté, en fait, et t'es là en train de tirer ce chariot. Bon, ça, c'est un petit imprévu qui nous fait plutôt rigoler. Bon, pester sur le moment, mais voilà. Mais ça peut être ce fameux lave-vaisselle qui tombe en panne, hein, en plein milieu des fêtes. Voilà. Voilà, la famille arrive et bam, c'est jamais le bon moment, hein. Les interruptions, les imprévus, ce pneu de voiture qui crève. Au moment où on a justement ce rendez-vous-là, hein, c'est fait jamais le bon moment pour ces imprévus. Voilà une petite photo que j'ai prise pendant que je préparais ce message. Ben voilà, c'est ça. Mon cactus, vous le voyez là, qui a décidé quoi là de gicler, voilà. Ben, c'est ces mini interruptions, hein, mais qui finalement accumulées dans une journée peuvent commencer à compter. Mais c'est vrai qu'il faut, on va aussi citer des choses plus graves, hein. Une dispute relationnelle, c'est des sacrées interruptions, hein, qui nous pèsent, qui bouffent toute notre énergie, qui nous épuisent. Le chômage, hein, il y en a plusieurs entre nous qui connaissent ce défi et c'est des choses lourdes à porter. C'est vraiment des interruptions dans la trajectoire que je me suis fixée. Voilà, hein, faisait pas partie du plan de départ, hein, de sa vie professionnelle. La maladie, ou un deuil. Voilà toutes ces différentes interruptions qui peuvent vraiment nous poser problème. Et j'ai trois objectifs ce matin pour nous, Christian, s'il te plaît. Admirer Jésus. Comment est-ce que lui, il s'y est pris pour ses interruptions dans sa propre vie? Mieux me connaître. Les interruptions me permettent de savoir plein de choses sur moi, en fait, hein, sur des choses que je n'ai peut-être pas envie de savoir, mais qui surgissent tout d'un coup. Et troisièmement, accueillir l'agenda de Dieu pour moi. Et je vais vraiment prendre comme exemple ce que Jésus, la façon dans laquelle lui, il a vécu. Alors si on devait, dans le prochain slide, dire bah, Jésus et les interruptions, comment est-ce que lui s'y est pris? Peut-être en préambule, parlons peut-être de ce Dieu, Jésus, Dieu, homme Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu, on sait qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Hein? Il peut tout, il est partout, il sait tout. Alors, je ne sais pas où vous en pensez, vous, mais moi, j'ai quelques idées sur ce que Jésus a et je ne prétends pas que j'ai raison, mais voilà mes idées. Alors, omniprésent, on est bien d'accord qu'il il a rendu ses pouvoirs, hein, les 33 ans qu'il était là, il était géolocalisé à Bethléem ou à Nazareth ou en Galilée, il a renoncé à ce pouvoir qu'il avait en tant que Dieu. Omnipotence, je suis également de l'avis que Jésus n'était pas, il aurait pu tout faire, mais je suis de l'avis, je peux me tromper, mais voilà mon avis, que Jésus, tout ce qu'il a fait, si nous, on a la même communion avec Dieu, et on est vraiment, on prend l'exemple de Jésus, on peut faire les mêmes miracles que Jésus a fait. Et Jésus a dit, on peut même en faire des plus grands. Hein? Donc, vous pouvez avoir un autre avis sur le sujet. Mais à propos de son omniscience, est-ce que Jésus, en se levant le matin, savait ce qui lui attendait la journée? Donc, je ne vais pas répondre à cette question, mais je pense qu'il doit y avoir plusieurs choses. Je crois que Jésus savait qu'il allait mourir et il en a souvent parlé, hein, de fait, et il a prévenu ou il a partagé à ses disciples qu'il allait mourir. Mais je ne crois pas que Jésus savait comme ça tout ce qu'il allait se passer dans la journée. Et j'aimerais bien penser que comme nous, Jésus a été interrompu, en fait. Que Jésus, il y avait des choses qui tout d'un coup arrivaient et qui devaient, comme nous, faire face à des surprises, en fait, de parcours. Donc, je vais prendre un texte. Alors, j'ai donc lu une partie des évangiles en disant, « Ah, je vais essayer de me faire un peu la liste de toutes les interruptions que Jésus a subies. » Par la suite, ça m'a un peu posé de problème. Dans mon troisième point, je vais vous en parler. Mais il y avait deux choses, vraiment deux interruptions qui m'ont vraiment frappée. Les pharisiens, purée, ils revenaient tout le temps à la charge. Et pour moi, c'est une de ces interruptions qu'avait Jésus, parce qu'à la fin, il n'y avait pas un grand réveil parmi les pharisiens. Hein. Il a passé beaucoup de temps avec eux, en train de leur dire des vérités. Et il venait tout le temps le harceler, le taquiner, le vouloir, le piéger. Ça devait vraiment être pesant à la longue, hein, cette relation, cette attitude des pharisiens. Il y a une deuxième interruption qui m'a vraiment touchée. Et peut-être juste la première texte, peut-être. Ouais, juste, peut-être avant de envoyer la suite, pour donner le contexte. Donc, c'est Jean-Baptiste. Jésus reçoit les nouvelles de Jean-Baptiste qui est mort. Et j'aime penser que Jésus avait une relation particulière avec Jean-Baptiste. C'était son cousin. Ils devaient souvent passer du temps ensemble. Ils vivaient peut-être pas au même endroit, mais toutes les fêtes, ils devaient être amis. Ils devaient vraiment bien se connaître. Et ce plus grand des apôtres, qui prophète, qui donc meurt trop jeune, a vraiment affecté Jésus. Et si tu fais juste le prochain, Christian, s'il te plaît. Lisons donc ces versets. Quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en bateau et se retirait à l'écart dans un endroit désert. Mais les foules l'apprirent. Elles sortirent de leur bourgade et le suivirent à pied. Aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Vous imaginez la scène. Enfin, juste, il veut prendre un petit moment tranquille, vraiment juste de pouvoir, ouais, être triste et faire deuil et prendre ce temps. Et voilà, la foule qui débarque, pas une personne, pas deux, mais la foule. Et cette foule avec plein de besoins vraiment urgents. Et voilà la suite de ce verset, vraiment touchant. Alors il fut pris de compassion pour elle et guérit les malades. Jésus qui avait cette disposition-là de cœur, qui j'imagine, hein, ça devait vraiment dire « oh là là !» Mais il fut pris de compassion et guérit les malades. Et ça me touche beaucoup et ça m'interpelle dans mes propres interruptions, hein, quand plein de personnes, plein d'imprévus surgissent dans ma journée, de dire « Seigneur Jésus, voilà, je t'admire, toi qui as su avoir cet état d'esprit, avoir cette disponibilité, avoir cette ouverture, avoir cette place pour les autres. Alors oui, nous t'admirons, Seigneur Jésus, tu es un exemple pour nous. Loué sois-tu, Seigneur, tu es incroyable. Nous voulons t'admirer et nous voulons continuer vraiment à nous saturer des évangiles, Seigneur, et lire des récits de ta vie, parce que tu es un Dieu incroyable. Et la vie que tu as menée ici sur terre, Seigneur Jésus, nous bouleverse complètement. Seigneur, l'attitude que tu as pu avoir constamment, dépendant de ton Père, disponible, accessible, Seigneur. Oui, nous te louons, nous t'admirons. J'arrive à mon deuxième point. Mieux se connaître. Je crois que les imprévus, c'est une excellente, c'est une excellente façon de savoir ce qui est un peu en dessous. Et si vous en doutez encore, demandez peut-être à votre entourage. Comment est-ce que vous réagissez alors parce que des fois, on est même aveugle, même sur nos propres réactions. On se dit, j'ai bien raison, franchement, il exagère. Ou c'est quand même, je suis justifiée dans ma colère, ou dans ma bouderie, ou dans ma... Je sais pas pour vous. Moi, je réalise ce que je cherche, ce que je fais assez souvent. Quand il y en a un imprévu, je cherche un coupable. Ça, c'est ma façon de gérer mon stress. Je cherche! Alors, désolé, chérie. ouais, c'est vrai qu'il y a moins de monde maintenant à la maison pour, il y a plus le chien, il y a plus les chats. Donc voilà, c'est vrai que Pierre-Claude en prend un peu plus. Mais voilà. Et on rigole, mais c'est pas très drôle, hein. Et c'est pas OK. Hein?
Le cactus,
non. Mais je suis sûre qu'il a bougé ce chariot. De... Il doit y avoir un truc. Voilà. Un autre endroit, peut-être d'avoir notre entourage, peut nous enseigner, déjà sur nous-mêmes, et si on n'a peut-être pas l'honnêteté suffisante pour être lucide, notre entourage. Mais en fait, ce qui se passe dans une petite capsule qui s'appelle la voiture, nous en dit long sur nos capacités de gérer les imprévus et les interruptions. Et alors, c'est étonnant, hein, il se passe un truc dans une voiture parce que les choses, des fois, qu'on dit à des personnes derrière cette vitre, jamais on n'oserait leur dire en face, en fait. Hein? C'est incroyable. C'est comme si une sorte de changement de personnalité. On devient une autre personne quand on entre dans la voiture. Alors voilà. Donc, je dis pas ça pour nous culpabiliser, je nous dis pas ça pour nous accabler, mais juste de prendre conscience. Mieux se connaître. Pour moi, la spiritualité va de pair avec maturité. C'est pas possible d'apprendre toujours plus de choses sur Dieu et d'être toujours de plus en plus une connaissance cérébrale des Écritures et de ne pas permettre cette Écriture et ces paroles de nous transformer. Plus on avance en spiritualité ou en connaissance, ben plus ça doit toucher nos cœurs et nous amener à la confession, à la conviction de nos péchés et de juste venir à Dieu. Alors, comme disait Suzy, il ne nous condamne pas. Quand on vient, il nous accueille avec grâce et avec joie même de dire... Ah bah enfin, c'est bien de capituler, c'est bien de venir. Et je t'accuse pas, mais je veux vraiment te délivrer de ces attitudes, hein, qu'on peut avoir, de bouderie, de colère, de passif-agressif, attitude de chercher un coupable, tout ce qui peut comme ça nous encombrer et vraiment nous freiner, hein, dans notre marche et nous empêcher d'arriver à cette maturité, hein, cette capacité de communiquer de manière non violente avec mon entourage, d'avancer en confiance en Dieu et d'être vulnérable, d'être authentique et vraiment permettre à Dieu de faire le ménage dans nos vies. Alors j'arrive à mon troisième point, accueillir l'agenda de Dieu pour moi. Et... C'est là où ça buguait un peu, parce que j'avais toute une longue liste des imprévus que j'avais l'impression que Jésus avait, des interruptions. Et en les relisant, je me suis dit, alors je ne sais pas s'il les a pris comme une interruption. Je me demande si Jésus, même s'il aurait pu être surpris, il ne les a pas accueillis. Et il s'est mis d'accord, il a permis ces interruptions, voilà. Alors, perdons pas de vue qu'il avait aussi son visage, il savait où il allait, hein, il se laissait pas distraire. On n'est pas en train de parler de la distraction et de fourvoyer dans plein de détours. Non. Jésus savait exactement où il allait, il savait exactement. Mais il se laissait arrêter, il se laissait interpeller, il accueillait. L'agenda de Dieu, peut-être pour lui, en fait, c'est... j'aime bien des fois imaginer, ben voilà, j'ai mon agenda, et à la fin de la journée, si je devais comparer, en fait, ce qui s'est passé, ben, il y aurait beaucoup, beaucoup de lignes en plus, et d'autres lignes, en fait, en moins, hein, parce que tout ce qui m'a pris du temps, tous ces imprévus, ben, ont empêché à ce que je fasse d'autres choses. Et ben, l'agenda de Dieu, c'est pas qu'il envoie ses pépins, c'est pas qu'il envoie ses difficultés, mais lui, là, il savait quelle journée j'allais passer, hein? Il savait exactement. Et alors, l'agenda en fin de journée que je vois, bah, voilà, c'était cet agenda-là, en fait, cet ordre du jour que Dieu avait pour moi dès le matin. Et peut-être ça nous pousse peut-être dans les bras de Dieu, pousse dans l'écoute et dépendance. Et peut-être plus d'humilité, peut-être. Et peut-être pas, et d'être un peu moins entêté. Et de croire, bah voilà, par où ça doit absolument passer. Et d'accueillir les imprévus. J'arrive plus à mettre la main sur une citation j'avais lue dans un journal chrétien, Christianity Today, je crois. C'est un homme qui a vraiment un homme de Dieu qui a accompli beaucoup de choses dans sa vie. Et il disait, toute ma vie professionnelle, je crois qu'il en parlait, ou peut-être ouais, dans la foi ou dans le ministère, j'étais irritée par les interruptions qui venaient tout le temps. En fait, m'empêcher de faire ce que j'avais prévu de faire ou la destinée que je m'étais donnée ou comme ça. Jusqu'au jour où j'ai accepté que les interruptions sont la vraie vie. Et de broder avec, et de faire avec, et de dire, c'est vrai, voilà, ces interruptions font partie de ma vie. et de les accueillir et de dire, Seigneur, je les accueille. Je veux ne pas me borner, mais vraiment d'accueillir tout cela. Il y a un passage dans The Message, alors vous me pardonnerez, hein, je reviens toujours avec cette traduction. Et Pierre-Claude m'a aidé un peu à les mettre dans les mots corrects. Alors, on va le lire ensemble. Colossiens 3. Alors, si vous voulez sérieusement vivre cette nouvelle vie de résurrection avec Christ, agissez ainsi. Poursuivez les choses que Christ préside. Ne traînez pas les pieds et les yeux rivés au sol, uniquement absorbés dans ce qui est droit devant vous. Levez vos yeux. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de Christ. C'est là que cela se passe. C'est là où il y a l'action. Voyez les choses dans sa perspective. Et la suite, s'il te plaît. Votre ancienne vie est morte. Votre nouvelle vie, votre vraie vie, même invisible aux autres, est avec Christ en Dieu. Il est votre vie. Quand Christ, votre vraie vie, rappelez-vous, va apparaître sur terre à nouveau, vous allez apparaître aussi, le vrai vous, le vous glorieux. En attendant, soyez d'accord de vivre une vie discrète, comme le fait Christ. Et la suite? Alors, choisi par Dieu pour cette nouvelle vie d'amour, donc je saute un peu hein, dans le texte, c'est 12 à 14, habillez-vous avec la garde-robe qu'il a préparée pour vous, la compassion, la gentillesse, l'humilité, la force tranquille, la discipline. Soyez tempérés, d'accord de prendre la deuxième place, rapide à pardonner une offense. Pardonnez aussi vite que vous avez été pardonné par le Maître. Et surtout, portez l'habit de l'amour. C'est votre vêtement essentiel. Ne le quittez jamais. Peut-être reprendre juste le tout premier bout de texte, Christian. Ne traînez pas les pieds, les yeux rivés au sol, uniquement absorbés dans ce qui est droit devant vous. Ça me décrit pas mal, en fait. Voilà un peu mon quotidien. Levez vos yeux. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de Christ. C'est là que cela se passe. Voyez les choses dans sa perspective. Et c'est vraiment ma prière pour nous ce matin, qu'on puisse... pour ce temps qui arrive, avoir cette attitude-là. Pas les yeux dans le guidon, qu'est-ce qu'on dit, hein? Voilà. Mais de lever les yeux. Et quand vraiment ça, c'est dur, et quand c'est pénible, et quand on ne comprend pas, vraiment de faire ce geste, de lever les yeux et de dire, il se passe quoi, Seigneur, auprès de toi? C'est où? Où est l'action? Où est la véritable? Où est-ce que tu es vraiment? Montre-le-moi, s'il te plaît. Et il joue pas cache-cache avec nous, Dieu, hein. Vraiment, il aime se révéler. Et il aime répondre à nos prières, si on fait ses prières sincères. Je vais déjà terminer avec un exercice que Ignace de Loyola, donc un homme de Dieu qui a vécu à 400 ans, encourageait à les chrétiens de l'époque de faire. Ça s'appelle le prière d'examen. On peut peut-être pour rebondir à ce que tu disais, Michel, dans ta prière, c'est la fin de l'année, on fait le bilan de la fin d'année, et qu'en fait, c'est l'inverse qu'Ignès nous proposait. Ce n'est pas le bilan de fin d'année, parce que ça peut être lourd, hein, des fois. Bon, ça n'empêche pas. Des fois, ça fait du bien de prendre les choses dans son ensemble. Mais il nous propose de faire le bilan de la fin de la journée, plutôt ça, qui s'appelle la prière d'examen. Et c'est en quelques points, vous pouvez peut-être aller sur Internet, le trouver de manière un peu plus étoffée. Je vais juste le résumer en disant qu'il y a 5 peut-être étapes. C'est à la fin de la journée, hein, ça peut déjà être dans votre lit ou peut-être si vous aimez écrire dans un cahier ou de vraiment juste être conscient de la présence de Dieu et d'être vraiment conscient qu'il est là, qu'il est en vous, qu'il est avec vous, ce même Dieu qui était là le matin et qui est là aussi le soir. Et que lui va mettre de l'ordre dans tout des fois le chaos que je crois était ma journée en fait. Et que lui, il va amener sa clarté et montrer où étaient les choses essentielles, où étaient vraiment des choses importantes. Et de commencer par la reconnaissance, je trouve très joli. Hein, en premier lieu, c'est Pierre-Claude, dans ton entrée, tu parlais de ça, introduction. Ouais, qu'on soigne notre capacité à être reconnaissante. Et de voir, pas le verre à moitié vide, mais justement de dire, Seigneur, montre-moi où est-ce que toi tu étais. Où est-ce qu'était l'action hein, autour de Christ, comme dit Colossiens. Mais vraiment d'avoir cette envie de dire, de souligner tout ce qui a été dans ma journée et d'être reconnaissant dans ces toutes petites détails de ma journée. Et après aussi de détecter le Saint-Esprit dans mes émotions. Hein? Il mettait beaucoup d'accent sur le fait que finalement, toutes nos émotions qui bouillonnent peuvent nous révéler où est Dieu ou où est-ce que j'en suis par rapport à Dieu. Et d'être attentif à ça. Quelles émotions je ressens et de vraiment s'ouvrir à Dieu dans tous ces états d'âme également. Et après, peut-être, quatrième point, c'est de choisir un élément. De laisser Dieu nous faire sortir peut-être un événement de la journée qui était important. Peut-être ça peut être positif ou négatif. Hein, c'est pas forcément uniquement les bonnes choses, mais peut-être une chose qui a vraiment foiré et qu'il peut nous montrer, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'était quoi le bug? Pourquoi j'ai surréagi? Mes réactions étaient complètement disproportionnelles à ce qui se passait. C'était quoi? Qu'est-ce qui se passait vraiment au fond de moi? Et ensemble avec Dieu de regarder le lendemain, déjà à l'avance, de dire, bah Seigneur, voilà, c'est la fin de la journée, voilà, je ne peux pas revenir en arrière, mais déjà à l'avance, je te remets la suite. Je vais terminer. Ah oui, d'accord. Donc la première point. Non, je ne les ai pas énumérés. Non. Donc premier point. Avec Dieu, d'être conscient de la présence de Dieu. Juste de dire, Dieu, tu es là avec moi maintenant. Et ensemble, on va regarder, on passe en revue la journée ensemble. Regardons ensemble cette journée, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et deuxième point, la reconnaissance, pour des toutes petites choses. Ouais. Troisièmement, détecter le Saint-Esprit dans mes émotions. De prendre au sérieux ce que j'ai ressenti, les émotions, peut-être ceux qui explosaient ou les autres, et vraiment de voir Dieu aussi là, ou ses yeux, son regard sur ce que je ressens émotionnellement. Et de choisir un élément ensemble, de dire, ok Dieu, on va pas pouvoir faire le, hein, tout repasser, j'ai pas le temps, j'ai sommeil. Mais est-ce qu'il y a une chose que tu veux vraiment m'apprendre? Quelle est une chose que tu veux me rappeler aujourd'hui? Et négatif ou positif, hein? Pas uniquement des bonnes choses, mais aussi les choses négatives. Et ensemble, regarder le lendemain ensemble et déjà, par la foi, remettre le lendemain. Donc, Ignace de Loyola, la prière d'examen pour la fin de la journée. Et je terminerai en priant. Seigneur, merci encore pour ton exemple. Merci. Et nous voulons te ressembler de plus en plus, Seigneur. Alors apprends-nous. Seigneur, que chacun ici, qu'on puisse peut-être retenir une chose que tu nous mets sur le cœur, un domaine de notre vie que tu as envie, sur lequel tu travailles en ce moment. Je demande ça pour mes frères et sœurs, pour moi-même. Une chose, Seigneur, parce que tu fais les choses une chose à la fois avec nous, voilà, tu nous bouscules pas, tu nous pousses pas dans les endroits où on n'est pas prêt à aller. Mais Seigneur, je prie pour nous que tu puisses nous révéler une chose. Je vais peut-être juste faire une pause pour que vous puissiez être à l'écoute. Merci, Seigneur, pour l'espérance que tu as pour nous. Pour nos vies. Et merci parce que toi, tu travailles de manière inlassemblable. Tu ne te fatigues pas de travailler en nous, avec nous. Tu veux le faire avec nous. Et on te loue pour ça, on te remercie. Seigneur, que nous puissions continuer à admirer ton Fils, Jésus, sur terre, toi incarné, Seigneur, et apprendre de toi. Que nous puissions mieux nous connaître, Seigneur, et que nous puissions intégrer ou accueillir l'agenda, ton agenda pour nos vies. Pour déjà cet après-midi, déjà tout à l'heure, on ne sait pas, tous les imprévus, toutes les interruptions qu'il y aura. Seigneur, on veut te faire confiance. On veut te dire, nous sommes dans des bonnes mains. Seigneur, jamais tu nous testeras au-delà de nos forces. Tu l'as promis dans ta parole. On peut se baser là-dessus, sur cette promesse. Seigneur, et tu, merci. On peut vraiment te faire confiance, entière confiance d'un bon papa. Le seul vrai bon papa, Seigneur. Nos pères nous ont peut-être déçus, mais toi, jamais tu nous déçois, Seigneur. Et on peut vraiment nous lâcher avec confiance, comme des petits-enfants, Seigneur, dans tes bras d'amour. Merci pour ça, Seigneur. Amen.